La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? 1-1-1, on m'entend? Oula, on m'entend trop bien même. Installez-vous, installez-vous. Alors, bienvenue à la place pour la troisième édition de la L2P Convention. Vous applaudissez pas? Non. Non, quand même, merci mon frère là-haut, merci, merci. I got you, you got my back, you got my back. Donc, bienvenue. Donc, en fait, là, je vais introduire chacun des invités. Quand ils rentrent, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour eux. On est ensemble, on est d'accord? Donc, je vais commencer avec la directrice de la petite loge, directrice de l'Académie d'humour, directrice de son mari, de ses enfants, même de moi. C'est elle qui a fait cette entrée-là. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Perrine Blondel, s'il vous plaît.
Super gentille. Bonjour.
Donc, la deuxième artiste, enfin artiste, personnalité incroyable, c'est une danseuse magnifique. Sur les réseaux sociaux, elle a tout cassé, mais pas uniquement. C'est une danseuse complète. Elle a fait un événement, elle a fait les awards de la danse et c'est la seule personne qui l'a fait pour l'instant, à ma connaissance. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Madame Badia Kassi. Ah là là. Le troisième, non des moindres, créateur du crew Wanted. Qui connaît les Wanted? Possible, levez la main si vous connaissez les Wanted. Quand même, les Wanted, merci. Tout le monde a levé la main, à part deux, trois personnes. Posez-vous des questions. Chorégraphe des Wanted, créateur du groupe, activiste depuis des années, organisateur d'un événement qui s'appelle le Cirque Underground. Il a fait tellement de choses pour cette culture. Organisateur aussi du VertiFight. Il a fait beaucoup, beaucoup. Et c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui avec nous. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Axon Wanted. Assieds-toi où tu veux, où tu veux. Ensuite, je vais annoncer l'homme du vent, le ventilateur, danseur et maintenant chorégraphe et qui va sortir sa prochaine pièce qui s'appelle Bounce. En avant-première, ceux qui ne savent pas le nom, c'est Bounce. C'est une, c'est une pièce sur le hip-hop et en fait, c'est important qu'il soit là aujourd'hui parce que lui, il est en train de faire sa pièce et il veut que ça tourne. Donc aujourd'hui, on va lui donner les clés. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Lumisso. Et le dernier en fait, cet homme-là, il a sauvé énormément de vies. On m'entend là? J'ai l'impression que j'ai perdu mon micro. Ouais. Ce mec-là, il a sauvé énormément de vies dans le hip-hop. Il a sauvé trop de vies. C'est le Superman du hip-hop. Il a mis tellement de gens bien en faisant des street shows. Il a fait un empire. Il aide énormément de gens. Maintenant, aujourd'hui, ses spectacles, il tourne partout, dans tous les événements. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour le cofondateur de Street Smile, Monsieur Youssef Tafat. Donc, bienvenue à la conférence. La danse hip-hop est partout. Mais où se trouve le public? Alors, les gens vont se dire, pourquoi je parle du public? Parce que j'ai fait un constat pour moi qui est très simple et qui veut dire beaucoup de choses, c'est que j'ai remarqué que de tous les événements de danse où on se sentait représenté, le public, ben c'était des danseurs. Ça veut dire qu'on fait des choses et souvent c'est le public qui vient nous voir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on fait un battle, ben les gens qui vont au battle, c'est des gens qui ne passent pas les présélections ou qui vont passer ou qui ont leurs potes. Et c'est souvent des danseurs. Et en fait, je me disais, mais comment faire pour ramener du public à la danse hip-hop? Donc voilà sur quoi on va parler. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai amenées, pour moi, vous êtes des personnes qui peuvent répondre à cette question. Donc normalement, à la sortie de cette conférence, on saura tous comment faire pour amener du public dans notre spectacle. On est d'accord? Et on sera tous riches, normalement. On est d'accord? Les gens, ils rigolent. Je suis sérieux. Mais au moins, on pourra faire des spectacles. Donc, je vais commencer directement avec, pour moi, la personne qui autour de nous a la plus grande expérience en termes de hip-hop qu'il a depuis les années 92, Wanted.
93,
c'est les 30 ans cette année. On peut applaudir quand même 30 ans, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y en a ici, leurs parents, ils n'étaient pas rencontrés, lui, il dansait déjà hip-hop. Donc, réfléchissez. Comment tu as vu, toi, en tant qu'activiste, comment tu as vu l'évolution du hip-hop par rapport au public? Les gens qui vous connaissaient avant le Wanted d'avant, de 93, et les gens qui viennent à votre spectacle aujourd'hui, en 2023.
Moi, je pense que c'est par rapport à un parcours. On a des parcours différents, je pense. Et nous, il faut savoir que depuis 93, on a été sur plusieurs, je dirais, branches. On a été dans le spectacle au début. On s'entraînait, on faisait que des chorégraphies. Après, on a eu un goût pour la compétition. On a foncé et on faisait que des compétitions, tous les battles possibles. Mais c'était à la période du breakdance, en fait. Voilà. Donc on a été, nous, les premiers Français à remporter les championnats du monde au Battle of Zaïre. Et en fait, il faut savoir que toutes les compétitions qu'on faisait, eh ben, on a réussi, nous, à marquer les gens. On est arrivé avec notre style, avec notre propre esprit d'équipe. Voilà, c'est ce que les gens ont vu de nous, c'est que voilà, c'est l'esprit d'équipe, les combinaisons. Parce qu'à la période des battles, quand tout le monde faisait du 1 contre 1, battle de groupe, eh ben, nous, on rentrait au 1 contre 1, mais on rentrait aussi chorégraphie. On faisait du show, en fait. On faisait des combinaisons. Et là, on s'était démarqué. En se démarquant, eh ben, y a des gens qui appréciaient notre style. Et à l'époque, le Battle of Zaïre, c'était chacun y allait, c'était les premiers arrivés qui y participaient. Jusqu'à en 2001, les licences se sont vendues. Et là, il y a eu les championnats français. On avait remporté donc, le championnat de France à Montpellier. Et on était parti donc représenter la France au Battle of Zaïre avec notre groupe non en tête possible. Et là, une fois qu'on gagne, forcément, le public, on s'est fait connaître déjà du public de la danse, déjà pour commencer. Les danseurs nous ont connus à l'étranger, parce qu'après, on était invités partout, que ce soit au Japon, en Australie, en Europe, au Canada, enfin, je veux dire…
Vous avez fait le tour du monde.
Voilà.
Tour du monde.
On a fait une cinquantaine ou soixantaine de pays, en fait. Voilà. Et forcément, en premier temps, les danseurs… Ben, ils nous connaissaient, c'est de notre génération, ils nous connaissaient tous. Il y a eu un DVD qui s'était vendu…
TF1, production TF1, ouais. je l'ai encore chez moi.
Voilà, donc on avait surfé aussi, parce qu'on s'était fait suivre justement par une équipe de tourneurs, donc Mehdi Idia, aujourd'hui qui a réalisé Grand Corps Malade, le film Patient, la vie scolaire, voilà, qui avait réalisé notre DVD, qui était après distribué par TF1. Donc le DVD s'était vendu à peu près à… entre 12 et 15 000 exemplaires. Le DVD du Battle of Zaïre, vu qu'il y avait une quinzaine de pays et que le DVD était vendu dans chaque pays,
En gros, vous avez eu une exposition énorme.
Exactement.
Et c'est ça qui a amené… Parce qu'après, vous avez fait le spectacle Bad Move.
Après, par la suite, donc on nous avait dit, les gars, si vous faites un spectacle, vous pouvez vivre de la danse. Pas que des battles, parce que les battles, bon, il y en a qui en vivent aujourd'hui, hein, mais on gagne seulement si on gagne. On gagne des sous seulement si on gagne. Voilà. Et à l'époque, les sous, c'était pas ça. Nous, Battle of Zaïre, si vous voulez savoir, c'était 1000 euros pour neuf, quoi. Voilà. Donc c'est pas comme maintenant.
Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal.
Et encore.
Pour le championnat du monde, ça fait mal.
Je sais même plus si c'était les francs ou…
Parce que c'était la limite. Je crois que 2001, limite 2001, c'est l'euro.
Voilà, exactement.
Mais je crois que tu sais pas si ça dépend quel mois.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc vous avez eu 1000 francs, les gars. Voilà. Et là, c'est catastrophique.
En gros, c'est pour vous dire que c'était rien du tout. Et puis, de toute façon, l'argent, on s'en foutait. Nous, on était là pour le palmarès, en fait, la compétition. Quand on est dans la compétition, il y a toujours un battle phare que tout le monde veut faire, et puis à ce moment-là, c'était le Battle of Zaïre.
Mais j'ai une question, j'ai un truc que tu as dit, qui est pour moi qui est important, c'est est-ce que le spectacle que vous avez fait, il est venu de vous-même, ou parce qu'il y avait de l'exposition, vous a dit, c'est le moment de faire un spectacle?
C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. On nous a dit, les gars, si vous faites un spectacle qui tient la route, vous pouvez être tête d'affiche. C'est-à-dire qu'on vous met dans des théâtres, au lieu d'inviter plein de groupes, oui, On peut inviter plein de groupes, mais si on fait un spectacle d'une heure, on peut être les seuls invités, en fait. Donc faites un spectacle d'une heure, essayez, et puis voilà. Puis nous, du show du Battle of Zaire, en plusieurs étapes, sur l'année, on l'avait travaillé. Donc notre première création, c'était Bad Move. Et avec Bad Move, bah,
là.
C'était, en gros, les gens disaient les champions du monde dans les théâtres, en fait.
Ok.
Voilà. Et on était invités partout, le spectacle, il plaisait aussi. Et ça a été une victoire pour nous, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on a envie, en fait. Bon, on a connu des hauts et des bas, certes, mais en tout cas, par rapport à la première création, oui, c'est ce qui nous a fait tourner et c'est ce qui nous a fait prendre goût aussi au spectacle. Et puis aujourd'hui, bah, on en est à, parce que je suis toujours dans le spectacle, je suis chorégraphe de la compagnie Wanted Posse, on en est à notre 10e création, là.
Bravo, on peut applaudir quand même.
Merci.
Parce que Dieu seul sait. Ceux qui ont déjà essayé de faire une créa d'une heure, ça prend une vie. 10. Très, très compliqué. Lumi, tu peux en parler de ça.
Non, ouais, c'est compliqué. Hein. Après, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ben, nous, on a les exemples comme ça.
Ouais.
Donc, quand on a des exemples comme ça, on se dit, faut tenter le coup. Après, c'est vrai que c'est un autre. Moi qui viens exclusivement des battles, c'est complètement différent. Je trouve que surtout de notre époque à nous, c'est complètement.
Exactement. Parce
c'est complètement.
C'est très un monde écarté, à part. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'y avait même pas YouTube. YouTube, c'est en 2005. Donc, il n'y avait pas YouTube. Donc, le DVD, moi, je me rappelle, le DVD, je l'ai eu pour mon anniversaire. Parce que j'ai dit à ma mère, il me faut le DVD. Elle a dit, j'ai pas d'argent. Elle a dit, ton anniversaire, c'est que ça. Pas de PlayStation, que ça. J'ai dit, vas-y. Envoie-moi le DVD. Et en vrai, pour dire, c'est qu'il y avait une exposition. Tout le monde voulait devenir vous, en fait. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, tu cassais tout sur les réseaux sociaux par je ne sais quelle chose. Et en vrai, c'est le moment de faire un spectacle. Et là, le truc qui a été fort, c'est que vous avez fait un spectacle, mais que vous avez fait un super spectacle. Et c'est ce qui vous a fait perdurer dans le temps aussi.
Exactement. Bon, on a connu aussi le...
Ouais. La vie sans exposition. On en reparlera après. Ouais. On en reparlera après, parce que TF1, grosse production, etc. et tout. Et forcément, ben, c'est super dur à gérer. En parlant d'exposition, je vais venir à toi avec Cassie. Parce que toi, aujourd'hui, t'as combien d'abonnés sur Instagram? Je ne sais pas si tu peux compter.
Bon,
800K. Pas 800 abonnés. 800K. Il y en a, ils n'ont pas 800. On applaudit 800K. 800K.
C'est très bien.
800K. Ça veut dire que, entre guillemets, tu as la ville de Paris dans ton Instagram. Incroyable. Non, mais aujourd'hui, parce que souvent, quand on parle du public hip-hop, à des gens qui ne sont pas dans l'hip-hop, quand j'en parle avec des amis, la question qui me répond tout le temps, c'est « Mais t'as qu'à être sur les réseaux sociaux. » C'est la clé pour tous. Et en vrai, toi, tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer, la première chose que je vais te demander, c'est comment tu en arrives à 800K?
Bah déjà, bonjour tout le monde. Écoute, la question, elle est hyper bien. Comment je suis arrivée à 800K? Moi, à la base, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux en 2024, déjà, j'ai commencé.
Aujourd'hui, 2014.
2004, pardon.
2004.
2004. Ouais.
2024, j'ai dit, t'es dans le futur. Cassie,
non. Pardon. En fait, en 2004, j'étais sur YouTube. Ensuite, entre 2004 et 2014, j'ai arrêté YouTube. J'étais focus sur ma formation, du coup, parce que j'ai fait la formation JD School. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram en 2014, en vrai. Donc, aujourd'hui, on est en 2024. Moi, ça m'a... 23, pardon. Pourquoi j'ai 24 dans ma tête?
T'es dans le futur.
T'es dans le futur.
T'as trop de projets.
J'ai un projet, en ce moment, 2024. Ouais, et du coup, moi, comment j'ai fait? Donc, moi, à la base, quand j'ai fini ma formation au Juste Debout School, et que j'ai voulu faire du hip-hop, il faut savoir que moi, je ne viens pas forcément du hip-hop. Moi, j'ai connu le monde du hip-hop en 2014, du coup, entre 2014 et 2015. Donc, c'est récemment. Donc, j'ai intégré cette formation qui est le Juste Debout School. Pendant cette formation, donc, j'ai découvert qu'il y avait des battles de danse. Donc, j'ai commencé à aller faire des battles de danse comme tout le monde. J'ai pris goût, j'ai kiffé. Ensuite, je termine ma formation au Juste Debout School. Je me dis maintenant, comme je ne gagne jamais de battle, comment je vais faire pour vivre de ma passion, qui est la danse du coup. Donc, je me suis dit, bon, va falloir laisser les battles de côté et me créer une communauté, en fait. Et en sachant que pendant les battles, je passais quand même beaucoup de castings. Et j'ai remarqué que dans les castings, c'était en mode, t'es trop petite. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, bon, ça suffit. J'en avais marre, en fait, qu'on me juge, qu'on me dise ce que je dois faire. Je me suis dit, je vais mettre sur les réseaux sociaux, je vais créer ma communauté. Et comme ça, bah, plus personne ne va me dire ce que je dois faire. Et quand les gens viendront à moi, c'est pour Cassie, la danseuse. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos petit à petit. Au début, ça a été hyper dur pour moi. Ça ne buzzait pas du tout, ça ne prenait pas. Mais il faut savoir aussi que quand j'ai commencé à faire des vidéos, ce n'était pas dans le but
d'être connue.
J'ai voulu faire des vidéos, c'était plus pour montrer mon travail, plus pour en fait, je prenais plaisir, c'est quelque chose que j'avais naturellement. Déjà, toute petite, je me filmais avec mon téléphone, donc c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, ça n'a jamais pris. Arrive en 2017, je rentre dans mon pays, du coup, je suis centrafricaine. Je rentre à Bangui parce que j'étais frustrée. Quand tu sors d'une formation de danse, bah, tu as plein d'informations, je perds l'authenticité, je ne savais plus trop c'était quoi vraiment la danse, j'avais oublié ce côté naturel. Donc je rentre chez moi et en fait, le gros déclic, ça veut dire je prends conscience de plein de choses que en fait, depuis je tourne en rang, mais en fait, au final, tu as une danse qui est là en fait. Et cette danse, c'est la danse afro. Donc moi, je faisais des vidéos de danse et tout, mais sans faire vraiment de vidéos de danse afro. Et je me suis rendu compte, mais en fait, tu as une richesse qui est devant toi. Pourquoi tu te prends la tête? Fais ça, en fait. Et directement, j'ai commencé à écouter plus de la musique afro. J'ai commencé à plus m'intéresser. J'ai commencé à me rattacher un peu plus à ma culture. Et je suis rentrée en France. J'ai fait une vidéo chez moi et je l'ai postée sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo, elle a énormément buzzé. Je suis rentrée en France, j'ai commencé à danser, j'ai commencé à écouter beaucoup plus d'afro, j'ai commencé à faire plus de danse afro, et en sachant que moi, je ne me suis jamais vraiment entraînée en danse afro, parce que c'est quelque chose que j'ai naturellement depuis que je suis toute petite. Donc, je ne me suis jamais dit que, vas-y, je vais aller dans une salle de danse pour m'entraîner. Je ne savais même pas que je pouvais, genre, danser. Enfin, je savais que je pouvais faire de la danse afro, mais dans les mariages, mais je ne savais pas que je pouvais, genre, emmener de la technique dans des danses afro. Donc, j'arrive, je fais des vidéos, ça buzz, et... du jour au lendemain, ça commence à monter. Et en fait, je me sens à l'aise avec ça et je me retrouve moi-même. Je me sens à l'aise, je me sens moi-même. Donc, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Et naturellement, les choses se sont faites. Ça commence à prendre 100K, 200, 300, 400, 600.
Et au 100, début, ouais, ici.
Au début, ça a été hyper dur parce que quand tu viens aussi du hip-hop, même si j'ai intégré la communauté hip-hop en 2014-2015, j'avais ce truc de jugement qui arrivait parce que quand tu te mets sur les réseaux sociaux, on commence à dire que tu es une danseuse commerciale. On commence à dire... C'est comme si, en fait, tu n'es plus légitime de c'est comme si c'est quelque chose qui est à part.
C'est comme si le fait que tu deviennes connu,
ouais,
tu perds ta légitimité et ton niveau de danse ou ta passion parce que tu n'appartiens plus à la communauté, tu appartiens à tout le monde.
Exactement.
Donc, les gens, souvent, on repousse ces gens-là. Mais ça c'est un sujet qui aussi, on est un peu, schizophrène. Parce qu'on veut gagner notre vie avec la danse, mais on n'aime pas les gens qui sont trop connus non plus. Il y a ce truc-là aussi, et c'est super, super dur à gérer, parce que, à mon avis, tu as dû le vivre, parce que le fait que tu arrives à avoir une grosse notoriété, et c'est la question que j'ai envie de te poser maintenant, je fais un petit focus sur toi, le fait que tu arrives à avoir cette notoriété-là, est-ce que, forcément, tu as les tafs qui arrivent derrière?
Oui, forcément, oui. Forcément, ça aide énormément. Je pense que maintenant... les marques, que ce soit les marques, que ce soit des personnes qui sont juste passionnées de la danse, qui découvrent aussi les danses à travers mes vidéos de danse. Ce qui est bien avec les réseaux, c'est que on arrive à créer aussi des gens en fait passionnés. C'est-à-dire que j'ai connu des gens qui ne connaissaient même pas l'afro et quand ils me voient, ils me disent « Tiens, merci beaucoup, c'est à cause de toi aujourd'hui que je fais de la danse afro ». Donc ça aussi, ça me fait plaisir. Je pense que c'est vraiment ça la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, 70% de ce que je fais, c'est en rapport avec les marques, du coup. Donc, oui, énormément. C'est, je vais pas te mentir, oui.
Ouais. Et le truc que j'aimerais te demander, c'est à quoi ressemble, est-ce que tu pourrais me décrire, par exemple, les personnes qui regardent tes vidéos, qui commentent ou qui iront même. Est-ce que quand tu donnes un cours, tu as des gens qui regardent tes vidéos, qui viennent à tes cours? Est-ce que ces gens, ces 800 000 personnes qui te suivent, est-ce que tu vois la différence et entre les gens qui viennent à tes spectacles ou à ce que tu proposes ou à tes événements? Je ne sais pas si tu crées des événements ou quoi, mais est-ce que tu vois et à quoi ressemblent ces personnes-là?
Oui, je vois à quoi ressemblent ces personnes-là. En général, c'est des personnes qui sont, qui sont passionnées soit de la musique, soit ce sont des personnes qui sont passionnées de la danse, ou soit c'est des gens lambda. Je me retrouve aussi avec des mamans qui aiment juste ce que je fais, donc qui viennent prendre des cours. Je me retrouve deux fois avec des papas qui sont juste curieux parce qu'à la maison, leur fille ou leur enfant a envie de danser. Et du coup, ils se disent, bon, je viens regarder pour voir si c'est quelque chose qui est, entre guillemets, quali. Donc voilà, ils sont curieux. J'ai vraiment de tout. J'ai aussi des danseurs aussi qui viennent parce qu'aujourd'hui, moi, dans mon style de danse, comme j'ai fait du hip-hop, donc je mélange beaucoup le hip-hop, la house et la dancehall. Donc j'ai des danseurs qui viennent par curiosité pour se dire comment elle fait pour faire ce type de mélange. Donc je pense que ouais, j'arrive vraiment à, dans mes cours, ce qui est bien, c'est que j'arrive vraiment autant à avoir des danseurs, mais autant juste des personnes qui sont passionnées, aussi des parents, et il y a vraiment de tout, vraiment. Il y a même des directrices, deux fois, même les marques avec qui je travaille, il y a des directrices qui viennent prendre mes cours juste parce qu'ils kiffent danser, juste parce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux et ça les fait rêver. Donc c'est génial.
Incroyable. Ouais. Vraiment, on peut applaudir, vraiment. Là, on a le public qui vient aux danseurs. Ça veut dire que Wanted, vous avez gagné le Battle of the Year. C'est venu à vous, le DVD. Toi, les réseaux sociaux sont venus à toi aussi, Cassie, et les gens viennent entre guillemets vers toi. Là, je vais venir à toi, Youssef. Toi, tu as pris parti d'aller chercher les gens. Ça veut dire que tu vas aller chercher dans la rue. Et en vrai, parce que tu fais un truc qui s'appelle, pour moi, ça fait partie de l'essence du hip-hop, tu fais quelque chose qui s'appelle les street shows. Et je trouve que les street shows, c'est super mal vu dans le hip-hop. C'est super mal vu, alors que pour moi, tous les gens ils disent « ouais, on est des street dancers, mais personne danse dans la rue ». Comme je dis, on est schizophrène de tous les côtés. Mais le truc que j'aimerais savoir avec toi, c'est comment des gens qui marchent, parce que je vois les gens qui me demandent, qui veulent me donner des 20 minutes ou qui veulent me parler, jamais je m'arrête. Comment vous faites pour arrêter des gens et qu'ils s'arrêtent et qu'ils viennent à vous donner de l'argent ?
Déjà, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé les street shows en 2007. J'avais 16 ans. Et pour moi, à la base, l'état d'esprit, c'était pas forcément. Je me disais pas comment je vais attirer les gens. Je me suis dit, je vais dans la rue, je danse, je me fais plaisir. Et les gars avec qui j'étais, il y avait une petite communauté de danseurs qui faisaient des spectacles de rue à Paris, mais c'était pas aussi organisé que maintenant. Mais c'était de temps en temps comme ça. À la base, le but, c'était juste de se faire plaisir. Et puis moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était, je rentrais au lycée. J'ai tellement pris plaisir, je me suis senti en vacances et je me suis dit, je veux faire ça le plus souvent possible. Et c'est ensuite, au fur et à mesure, qu'on a commencé à se dire, bon, on va essayer d'optimiser le spectacle, comment on fait pour attirer les gens. Une fois qu'ils sont attirés, comment on fait pour les garder jusqu'à la fin du spectacle. Et après, on s'est dit, une fois qu'ils arrivent jusqu'à la fin du spectacle, comment on fait pour qu'ils payent. Moi, ça m'a mis 3 ans pour comprendre les subtilités de pourquoi les gens s'arrêtent, pourquoi ils restent et pourquoi ils payent. Voilà.
Aujourd'hui, tu veux nous dire pourquoi?
Ouais, y a des process pour ça. Mais je pense que le street show, danser dans la rue, je pense que c'est cool que tout le monde le fasse au moins une fois ou deux. Juste pour l'expérience, juste même des danseurs de battle, je leur conseille souvent de faire des street shows tout simplement pour prendre de la prestance, de la présence, comprendre comment on peut occuper l'espace. Ça aide beaucoup sur ces aspects-là. Après, faire des street shows à temps plein, comme nous on a commencé à faire, bon voilà, c'est pas forcément.
C'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde, c'est un lifestyle, voilà, mais c'est toujours intéressant de tenter l'expérience, de se dire bon, je vais dans la rue, je vais sur une place publique, je danse. J'essaie vraiment de sentir l'énergie des gens et j'essaie de voir ce que je ressens et ce qu'eux, ils ressentent.
Maintenant, pendant ces 3 ans, ouais. C'est ça que je veux savoir. Tu ne veux pas te dire, tu caches parce que j'avoue, tu vas perdre ton argent, on va le faire.
Non.
Mais vraiment, comment tu as c'est quoi les clés pour que les gens s'arrêtent, ils restent et ils payent? C'est-à-dire qu'ils payent alors que ce n'était pas prévu dans leur... Parce qu'on n'est pas tous riches, ce n'est pas facile aujourd'hui la vie pour tout le monde. Les gens, ils s'arrêtent et au final, ils te donnent de l'argent. Comment tu vas créer cette dette envers les gens qui passent?
Alors déjà, les gens, ils payent pas forcément par rapport à ce que tu as fait en termes de danse. Ils payent par rapport à l'expérience qu'ils ont eue en regardant ton spectacle, aux émotions qu'ils ont été véhiculées pendant ton spectacle. C'est pour ça que si tu regardes bien un spectacle de rue, c'est rare que, en tout cas dans le hip-hop, c'est rare que quelqu'un qui fait des street shows, il fait que danser. Tu peux en trouver, mais généralement, il leur manque une partie de l'équation. Généralement, tous ceux qui font des street shows, ils parlent à un moment donné, ils animent à un moment donné, ils disent qui ils sont et ils font passer un message.
C'est très important ce que tu dis.
Ouais. Et pour en revenir à ta question de comment attirer les gens, déjà c'est simple, il ne faut pas montrer ce qu'on va faire dès le début. Il faut que les gens pensent qu'il va se passer quelque chose. Donc si les gens pensent qu'il va se passer quelque chose, ils vont s'arrêter en disant qu'est-ce qui va se passer?
Le questionnement, ça veut dire qu'en fait tu crées une situation où, par exemple, je donne un exemple, il y a des gens qui passent, tu t'étires, tu mets de la musique, tu parles, tu montes tes muscles, tu dis bon. Et là, les gens disent, il va se passer quelque chose.
Exactement. Par exemple, nous, quand on fait des street shows, pour attirer les gens, on met de la musique classique. Et on reste statique. On reste statique quelques secondes. Les gens passent. Qu'est-ce qui se passe? Et dans les endroits touristiques où il y a encore, qui sont très, très fréquentés, les gens peuvent même s'arrêter sans qu'il y ait de musique, juste en s'arrêtant et en faisant acte de présence. Donc après, voilà, ça, c'est relatif. Mais généralement, c'est le questionnement qui crée la demande. Voilà.
Fort. Et après, comment il reste?
Alors, comment il reste?
Je te tire les verres du nez. Tu vas tout dire aujourd'hui. J'ai besoin. Comment il reste?
Alors, comment il reste? Il reste parce que tu vas leur dire qu'il va se passer quelque chose. D'accord? Une fois qu'ils savent ce qui va se passer quelque chose, ils vont dire, qu'est-ce que tu vas faire? Et ensuite, le but, c'est de montrer du coup ton spectacle, montrer ce que tu sais faire. Et une fois que tu as montré ce que tu sais faire, il faut que tu leur expliques pourquoi maintenant ils doivent te payer. Par exemple, parce que tu vis de ça, ou par exemple, parce que tu as un projet que tu veux développer. Nous, par exemple, on vend des produits dérivés, des t-shirts, ce genre de choses. Et l'idée, c'est de dire aux gens, vous avez passé un bon moment, on vit de ça, on est professionnel dans ça, maintenant, il faut nous récompenser. Voilà.
En fait, le fait qu'ils soient restés, en fait, ça crée une dette chez eux. Qui sont limite obligés de participer.
Exactement. Ce qui fait que les gens vont payer, ce n'est pas forcément des compétences artistiques, mais c'est les compétences artistiques liées aux compétences humaines et communicatives que tu vas associer à ton spectacle.
Exactement.
Du coup, si tu sais communiquer, si tu sais danser et que tu sais présenter ta danse, tu as tous les ingrédients pour que ça paye. Tu as des mecs qui font des street shows, ils sont très, très, très performants. Et ils font pas des gros chapeaux.
Parce qu'ils n'arrivent pas à toucher les gens.
Et voilà, il leur manque une partie. Ils ont la danse. Même il y a même des gens qui regardent le spectacle et qui disent ouais c'était trop bien, mais ils payent pas à la fin. Parce que il manque cette dimension communicative. Faut faire passer le message, faut dire aux gens on vit de ça. On vous a présenté quelque chose. Maintenant il faut nous récompenser.
À sa juste valeur.
À sa juste valeur, bien entendu. Mais après il y a aussi des techniques pour optimiser.
Ouais, ça. Voilà. Ça, c'est bon. On va tout donner. Mais ce que tu dis, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que pour revenir à Jaggi, à Wanted et à Cassie, je trouve que vous avez ça. C'est un truc que Wanted, vous avez ce côté. Comme il y avait de tout dans le groupe, c'était facile de s'identifier à un personnage. Parce que je me rappelle que moi, qui ne vous connaissais pas, avec mes gars, on disait, c'est qui ton préféré? Comme si vous étiez des super-héros, en fait. Et on avait ce truc d'identification. Et Cassie, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à toi. Au-delà que tu danses bien, etc., et qui sont touchés par ta danse, et par aussi qui tu es humainement, et ressentent ça. Et je trouve que, là, je vais venir à Perrine, toi qui
vois... Je te vois venir un peu.
Hein, comment?
Je te vois venir.
Tu me vois de loin.
Loin ouais.
Toi, en fait, toi, par exemple, il faut expliquer que tu es directrice de La Petite Loge. Ouais. La Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris, et pratiquement tous les gens du stand-up sont passés par là. Pratiquement. Et surtout, pratiquement, 90%. 70.
Des talentueux, tous.
Tous les talentueux, oui. Ceux qui font n'importe quoi, non.
Voilà, c'est ça, merci.
Et en fait, le truc que je trouvais fort, parce que je sais que tu as travaillé avec des amis à moi, etc., le truc que tu dis, que tu trouves, les retours que tu donnais, c'était de comment un artiste sait bien ce qu'il fait, mais comment il peut toucher les autres, comment il peut se présenter aux autres. Et que souvent, le reproche que tu disais, c'est qu'un artiste, souvent, il pense uniquement qu'à son art. Et ne pense pas à comment le transmettre aux autres. Est-ce que tu peux donner des détails par rapport à ça ?
Bah, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, qui me fait vraiment écho avec tout le travail de stand-up, c'est la singularité. C'est qu'un artiste qui veut faire ce qu'il a vu chez d'autres, et bah, les autres le faisaient déjà. Donc, il n'y a pas d'intérêt supplémentaire. Quand Cassie dit qu'elle s'est trouvée et en fait, en revenant à certaines racines, elle est allée allier plusieurs choses qui faisaient que c'était elle sur le plateau et pas ce qu'elle avait appris en formation, bah, typiquement, dans le stand-up, c'est ça qui fait qu'un spectacle est original. Et si on va voir une personne, c'est parce qu'on veut voir cette personne, on ne veut pas l'avoir imité quelqu'un d'autre. Donc la singularité, accepter de s'ouvrir et de donner de soi, même émotionnellement, etc. Je rejoins ce que dit Youssef sur le fait de dire... reconnaître que c'est un métier, partager avec le public, laisser le public faire une partie du travail aussi en fait, ouais, bon, alors là, je ne veux pas entrer dans les trucs techniques de stand-up, mais en gros, un comédien sur un plateau, il fait une partie du travail et le public fait une partie du travail aussi. Et il faut aussi laisser le public faire sa partie du travail et pas absolument vouloir lui imposer ce qu'on pense, mais aussi le laisser faire son chemin, etc. Et puis, il y a aussi tout le côté voir un spectacle à 360 degrés, c'est-à-dire prendre en considération la partie artistique, mais aussi la partie com, la partie qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on met dans un résumé, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui passent dans la rue, dans quel endroit on joue. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai entendu plein d'échos dans tout ce qui a été dit sur le fait de passer toute une partie de sa carrière sur les battles, c'est les plateaux de stand-up aujourd'hui où il y a plein d'artistes qui se contentent de ça, qui ne gagnent pas d'argent sur les plateaux, mais qui vont les utiliser pour faire de la com, pour faire venir les gens à leur spectacle. Mais le fond des talentueux en question, la majorité des stand-uppers qui réussissent, c'est des gens qui ont envie de développer leur art sur une heure et d'aller... raconter vraiment tout un propos et avoir un univers singulier et pas juste se contenter de 5 minutes de gloire sur un plateau, quitte à être sur les réseaux sociaux, à passer à la télé, etc., à gagner un peu d'argent, etc. C'est pas suffisant. S'ils sont artistes, c'est parce qu'ils ont envie d'aller au fond de leur proposition, quoi.
Exactement. C'est important pour moi ce que tu dis parce que je trouve que dans le hip-hop, beaucoup n'ont pas cette idée-là, en fait. Moi y compris, par exemple. J'ai fait tellement de battles et j'étais tellement happé par le truc des battles, être appelé à gauche, à droite, que je ne me suis jamais dit comment moi j'allais mettre ma danse et la partager aux autres. Et en vrai, le fait que j'étais tombé dans ce truc-là, etc., au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire un peu stand-up et tout, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de temps à essayer d'être fort dans ma catégorie, dans mon essence, mais pas fort dans... comment le partager aux autres. Et souvent, quand je montrais mes vidéos à des gens, c'était des fois indigeste pour eux qui n'étaient pas danseurs, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, en fait.
Bah, être très technique, après, c'est le principe du plateau de stand-up, c'est un peu la même chose. C'est on va essayer d'être efficace. Il y a plein d'artistes qui disent « Ah non, mais moi, je retourne une salle. Sur un 5 minutes, je retourne une salle. » Ils sont incapables de tenir les gens sur une heure, parce qu'en fait, ils sont techniquement hyper bons pour faire ce qu'on attend d'eux sur l'instant. Et écrire une vanne, c'est facile. Il y a des techniques, il y a des bouquins, il suffit de... C'est grammatical, quoi. C'est de la syntaxe. Donc, ce qui fait qu'on a une vraie proposition artistique et pas juste de la technique, c'est le fait d'être allé au bout de sa proposition. Et c'est un peu, je vais faire la philosophe, mais ce truc d'opposer le plaisir immédiat au bonheur. Oui, un carré de chocolat, c'est bon, mais ça ne rend pas heureux. Voilà. Donc, oui, faire de la punch et avoir un rire, et bah, le stand-upper qui fait ça, il se dit, ça y est, je suis fort. Celui qui arrive à garder l'attention des gens et à vraiment les emmener avec lui sur une heure, il sort de là, il est heureux. Il n'est pas juste content d'avoir eu sa dose d'adrénaline.
Exactement. Très fort. On peut applaudir quand même parce que là...
C'est mon avis. Hein,
c'est pour ça que je t'ai invité. Exactement. Et toi, Lumi, là, tu t'es...
Quelle parole.
Quelle parole. Toi, t'es là aujourd'hui parce que t'es, pour moi, là, en ce moment, t'es dans ton climax. C'est-à-dire que là, en ce moment, t'es le danseur qu'on invite, t'es le danseur qui gagne des battles, t'es la personne qu'on a envie de voir. Est-ce que, et aujourd'hui, je sais que là, en ce moment, t'es en train de créer ton propre spectacle. Comment toi, tu réfléchis aujourd'hui, avec tous les outils qu'il y a, à comment mettre ton spectacle en avant ?
Ben, on va dire, je réfléchis de deux manières, parce que je ne pense pas qu'à mettre mon spectacle en avant, on va dire que je veux défendre un truc. Je veux défendre un truc que je trouve qu'on n'ose plus défendre, parce qu'on fait beaucoup de battles, on est dans le jus. On est dans le jus du battle, on est dans le jus de l'instant. Et ben, pour la petite histoire, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une compagnie, qui est la compagnie de Saïdo et Johanna, Black Sheep. Et puis je commençais à, j'ai vu comment ils vendaient leur danse sur un spectacle, sur du long terme, comment ils en parlent, en faire tout un univers, tout un contexte. Et je me dis, en fait, nous, on fait des battles, on fait du one shot, mais on est des artistes de ouf, mais on dit rien. On vend pas le truc, on montre pas vraiment toute l'étendue de ce qu'on fait. Et donc, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité avec le théâtre d'une ville dans laquelle je travaille, qui est le théâtre Le Aragon. Et on a pu parler, et je me suis dit, il faut faire un truc plus long. Il faut faire un spectacle, il faut arriver à faire comprendre aux gens que ce qu'on fait dans l'ordre de grande, c'est un truc de ouf. Donc, moi, comment je vois ce qu'on fait, c'est juste que ce qu'on vit et ce qu'on fait, c'est un truc de ouf. Mais personne n'est au courant. Donc, comment on va faire pour le montrer sur scène et aussi derrière, parce que pour moi, ce n'est pas que la danse, c'est dans la communication, c'est dans l'éducation qu'on va faire au public. Comment on va faire pour leur expliquer que ce qu'on vit, c'est un truc de ouf? Parce qu'en vrai, tout le monde kiffe. Quand tout le monde va dans des battles, tout le monde kiffe. Tout le monde est un peu impressionné par ça. Donc, comment on va faire sur 40, une heure pour vendre ça? Ben, pour moi, c'est expliquer aux gens déjà ce qu'on fait et c'est leur faire comprendre qu'on est des magiciens, c'est magique ce qu'on fait. Et le rendre un peu merveilleux. Tu vois, c'est comme du cinéma. Tout le monde kiffe les films un peu merveilleux, tu vois, les dessins animés un peu merveilleux. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de... Ce qu'on fait, c'est merveilleux. Venez voir. Et voilà, c'est... Et on défend un truc qui est vrai et un truc qu'on vit tous les jours. On ne fait pas semblant. Et je pense que les gens, ils aiment voir quelque chose de vrai, mais il faut le rendre accessible. Parce que je trouve que nous, des fois, dans l'ordre de grande, on est très fermé, on n'est pas accessible au grand public. Parce qu'on est dans notre bulle, on a nos battles, même sur nos réseaux sociaux, c'est nous, tu vois. C'est nous, on se like, c'est nous, on se follow. Le public, c'est nous, on va dans les battles, c'est nous, on fait les pré-selects, c'est nous, on regarde.
C'est qu'on on est entre nous,
en fait.
C'est
entre nous. Soi, ouais.
On est entre soi. Et un truc aussi que j'ai remarqué, parce que pour le temps que je suis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que le fait qu'on soit entre nous, mais aussi en confrontation, c'est qu'on montre, on nous apprend pendant des années à être les plus forts. Pas être... Parce que je trouve que pour que les gens ils aient de l'empathie envers nous, il faut qu'ils puissent se reconnaître aussi et qu'il y ait une part de faiblesse, une part de pas toucher. Et le fait qu'on soit toujours dans un truc le plus fort, le plus fort, le plus fort, le plus fort, eh ben on crée une distance avec des gens qui ne sont pas forts du tout. Donc forcément, ce que nous on fait, ben c'est loin de eux, donc ils s'écartent au bout d'un moment. Donc on reste contre nous. Et je ne sais pas comment... toi, Jaggy, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu le spectacle Speakeasy. Où j'ai trouvé justement qu'il y avait ce truc un peu de... Vous n'étiez pas là en train de... Il y avait de l'humour. Il y avait un moment, il y avait un peu de jeu. Il y avait de... Parce que je connais les danseurs. Il y avait des moments où c'était inconfortable. Comment tu as réussi à casser ce mur de « je suis danseur, j'essaie d'être le plus fort » à de la vulnérabilité?
Bah, comme je dis, c'est par rapport au nombre de créations, en fait. C'est justement quand... Sur la première création, bah, ok, c'est la découverte. La deuxième, on se plante. On a la tête sous l'eau. On arrive à ressortir. La troisième, elle est... Elle passe. Elle est, voilà. Non, trans, c'était la deuxième. On a d'abord été sous l'eau. Ouais. Et après, on avait réussi à remonter la pente. Et après, on avait... Ça avait fonctionné après. Mais au début, c'était la catastrophe. Parce qu'on n'avait pas l'expérience, en fait, du travail sur la création. Nous, Bad Move, on l'avait fait sur l'année, comme je disais tout à l'heure. Et trans, là, on arrive en théâtre national à Évry-Courcouronnes. On nous dit, bon, on vous donne tant de budget. Voilà, vous faites des actions dans la ville. Mais par contre, à telle période, c'est-à-dire 3 mois, vous devez faire un spectacle en 3 mois. Telle date... Il y a telle date, c'est le jour J.
C'est le spectacle. Il y a l'affiche.
Voilà. Et là, l'expérience de le faire en 3 mois, donc on ne l'a pas. Donc on arrive, on travaille, mais on arrive au bout de 3 mois, on n'a pas fini le spectacle en fait. Ça veut dire qu'on part en Angleterre, là où on avait fait un beau carton, ce qui nous avait amené en Australie, tout ça, là, on arrive avec un spectacle pas fini. Donc là, bon, on descend dans les articles, la tête sous l'eau, et ça, c'est une expérience. Enfin, pour ma part, je me dis plus jamais. Donc après, dans le travail en général, parce que je ne vais pas citer toutes les créations, mais c'est comme on dit là, c'est entre nous. Là, c'est du hip-hop. On a envie de façonner notre public, de montrer comment on avance, de donner des directions, de donner aussi aux gens l'envie de faire comme nous, d'autres spectacles. Et après, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, les gars, là, il faut viser le grand public maintenant. Le grand public, c'est... Voilà, là, on sort de notre zone de confort. Et pour moi, c'est comme Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Wanted 1, Wanted 2, Wanted 3, bah, ça y est, maintenant, il faut passer à autre chose. Donc là, à partir de ce moment-là, on se dit, bon, ça serait bien de bosser avec un œil extérieur, un metteur en scène. Mmh. Ah d'accord, voilà. Le metteur en scène, quand il arrive, il me dit, bon, comment tu veux qu'on bosse? Moi, je lui dis, quand tu viens, c'est toi qui prends les rênes. Comme ça, ce n'est pas mes idées. Tu vois, Wanted 1, Wanted 2, Wanted 3, voilà. Il faut savoir que dans Wanted, même si moi je suis chorégraphe, on participe tous. On se connaît tellement bien que chacun est libre. Après, moi, en tant que chorégraphe, j'ai juste dirigé un peu. Voilà. Mais après, on est tous des bosseurs et tout le monde est quand même talentueux quand même pour créer. Maintenant, le metteur en scène, quand il arrive, il nous fait des propositions. On lui montre une partie qui dure 7 minutes. Il fait, bah, attendez, il nous met du Miles Davis, faites ça sur ça. Ah, challenge. Tu vois, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Et là, finalement, on réadapte. Il dit, bon, on va travailler l'interprétation. Donc, il nous sort de notre zone de confort, en fait. L'interprétation, comme tu as vu dans Speakeasy, il y a du jeu, ouais. Il y a de l'acting, il y a du chant. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là qui fait qu'on sort déjà de notre univers et que là, quand on arrive devant un public qui est autre que le nôtre et qu'on voit, parce que nous, on a fait Avignon en 2018, c'était la première fois, on l'a fait en 2019, on nous avait dit, mais le spectacle a fonctionné, si vous le refaites en 2019, ça va exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Nous, on a commencé le spectacle, il y avait 3 personnes dans la salle. Avignon, il faut tout faire. On fait notre propre com, on met nos affiches.
Avignon, c'est dur. Voilà. Je ne sais pas si les gens ont déjà été à Avignon. Avignon, c'est hardcore. Ça veut dire, c'est ouais. L'endroit, c'est voilà. Qui en cours des spectacles. Oui. C'est que tout le monde vend son spectacle et ça attire les gens.
Donc, on fait une promo aussi dans la rue, mais la différence qu'il y a avec les street shows et Avignon, c'est qu'Avignon, les gens, ils sont là pour ça.
Ouais.
Donc, c'est plus facile, en fait. Ouais, les gens, ils sont là pour ça et des spectacles tous les jours. Nous, quand on y était la première fois, Avignon, c'est une grosse machine. C'était 1600 spectacles par jour. 1600 spectacles
par jour. Non, c'est client court, hein, je vous dis.
En 2019, c'était monté à 1800. Parce qu'il y a des spectacles tous les jours, chaque heure, jusqu'à 22h et partout, en fait, dans la ville et aussi en dehors de la ville, en fait. Enfin, des remparts, pardon. Et donc, pour en revenir maintenant au grand public, nous, c'est comme ça, en fait, qu'on...
Vous avez testé, en fait.
On a fait un test, en fait. Et Avignon, ça a fonctionné. Ça veut dire pour dire que ça a fonctionné, ça nous a ramené quand même beaucoup de dates, en fait, par la suite. Comme là, les programmateurs, aujourd'hui, sont tous à Avignon, dans le spectacle, pour nous. Hein.
Le spectacle vivant, ouais.
Avant, il y avait le Festival de la Villette, les Rencontres de la Villette, il y avait Suresnes, où il y avait beaucoup de programmateurs, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, Avignon, quand tu arrives, pour entrer dans du concret, dans du détail, nous, je donne un exemple sur Avignon de l'année dernière, on a eu plus de 150 pros qui sont venus nous voir. Donc sur les 150 pros, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer, mais ça nous ramène, nous, un certain nombre de dates qui nous permet de tenir, enfin d'avoir notre statut, de continuer à être intermittent et de continuer encore à tourner et de salon en salle, on découvre notre univers en fait. Voilà. Et puis après, une fois qu'on est sorti de cette zone-là, on travaille avec un metteur en scène et puis après, c'est juste de voir le travail qu'ils font. Parce que moi, avant, je ne connaissais pas les... vu qu'on ne travaillait pas avec des metteurs en scène, je ne connaissais pas, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Mais là, en fonction des spectacles qu'on peut voir à Avignon, je me suis intéressé au théâtre. J'ai commencé à voir d'autres spectacles qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait. Et puis je me suis dit, bah, tiens, si c'est le metteur en scène là, qui a fait un théâtre comme ça, je vous donne l'exemple de Laurence Darabi. C'est un spectacle qui a cartonné, qui cartonne, Laurence Darabi. Il fait à peu près 2 heures. Le metteur en scène, il s'appelle Éric Bouvron. Il est en 2014, dans le théâtre privé, il avait eu le Molière. Comme quoi, il était le Molière du meilleur metteur en scène, en fait, de l'année, en 2014. Et ce mec-là, j'ai trouvé ça super intéressant. On nous a présenté, on s'est vu. Aujourd'hui, on bosse ensemble. Là, c'est notre 10e spectacle, on bosse ensemble. Et là, ça n'a encore rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Et moi, c'est là où je trouve le plaisir, en fait, le plaisir juste de voir que j'apprends encore. On n'a jamais fini d'apprendre, on le sait.
Avec mais... toutes ces expériences-là.
Exactement.
Et en fait, c'est pour ça qui est intéressant. Mmh. C'est que dans ton travail, parce qu'il y a ça aussi, c'est que nous, en tant que danseurs, on a un ego. Mmh. Et d'avoir l'humilité de se dire, écoute, je prends quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, qui ne sait même pas faire la moitié de ce que je sais faire. Mmh. Je vais voir comment il dirige, pas pour perdre, mais pour apprendre.
Exactement.
Pour voir comment la personne réagit. Mmh. Et le truc que je voulais aussi parler avec toi, c'est qu'il y a un truc que je trouve qui est intéressant par rapport à nous dans ce hip-hop, parce que j'ai fait aussi des créations, c'est que nous, quand on commence les créas, les salles, elles sont blindées. Mais ce n'est pas réel avec le public qu'on a. C'est le public, des fois, du théâtre. Les gens ne viennent pas pour nous. Ils viennent par rapport au théâtre. Et souvent, le truc qu'il y a, c'est que ce qui m'a frappé, moi, avec le stand-up, c'est que j'ai vu des gens commencer avec 3 personnes dans la salle. 2 personnes. Et jouer leur spectacle comme s'il y avait 10 000 personnes. Et recommencer la semaine d'après. Et recommencer. Et recommencer. Jusqu'à aujourd'hui, ben, ils remplissent des grandes salles. Et en vrai, c'est ce travail-là que nous, on ne fait pas du tout en danse. Est-ce que tu peux en parler, toi, Perrine, toi qui as la petite loge? C'est 25 personnes, la petite loge,
25,
c'est ça?
Places, ouais.
25 places,
oui. 25 places? Oui. Forcément, le travail est différent du travail de danse parce que c'est un espace réduit. La scène fait 2 mètres carrés, donc on travaille beaucoup. Ouais. Alors, sur le corps, il y a quand même tout un travail de présence, etc., qui sont hyper importants parce que le public est à 1 mètre. Mais ce à quoi je pense quand j'entends tout ce développement d'un spectacle sur l'autre avec Wanted, ce qui me fait écho vraiment, c'est en fait la notion de se dire que le public a les clés. C'est que si tu joues pour un public de gens qui sont déjà là pour cet univers, entre guillemets, forcément, le public va être content parce qu'il a trouvé ce qu'il voulait chercher. Quoi.
Exactement.
Mais après, dès que tu commences à t'ouvrir à d'autres arts et à essayer de faire des ponts, tu t'ouvres à un public qui n'a pas les clés. Parce que la problématique de viser un public qui a les clés, c'est que le jour où il y a une personne qui n'a pas les clés, elle est paumée et elle s'ennuie, en fait. Et ce que tu dis, Jimmy, c'est ça aussi. Tu arrives dans un théâtre subventionné, où il y a des gens qui ont un abonnement à l'année, qui viennent voir du Beckett une semaine, la semaine d'après il y a du hip-hop, ils font c'est quoi ce truc, ils n'ont pas les clés, ils sont paumés, ils se disent ok, le hip-hop c'est nul, ils s'en vont, ils ne reviennent pas. C'est contre-productif en fait, ça aussi, de se dire, donc en acceptant de se dire mon spectacle il va avoir une singularité, je vais m'ouvrir aux gens qui peuvent le voir alors que c'est pas ce qu'ils attendaient, et que je vais les surprendre et que je vais réussir à les embarquer avec moi sur des émotions, sur des choses qui sont universelles, là, c'est gagné parce que c'est un public qui reviendra peut-être et qui acceptera de se laisser surprendre. C'était pas du tout ta question.
Non, mais c'est...
Pardon, j'ai...
Non, c'est... Non, ce que je voulais dire... Tu veux dire quelque chose, Lumi?
Y a un truc où je mettrais... Enfin, moi, j'ai une question d'interrogation parce que je trouve qu'on parle beaucoup... C'est une réalité, c'est que selon les endroits, les publics, ils changent. Ouais. Et tu vois, même si nous, on danse, on est entre guillemets habitués à danser sur des publics qui sont pleins, des scènes remplies, mais ce n'est pas notre public qui est là. Et je trouve qu'aussi, on a un problème avec ça. Je trouve que nos publics ne nous suivent pas aussi.
Exactement.
Je trouve que nous, entre nous, y a le public des battles, mais ce n'est pas le même public qu'on a en salle. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois, certaines difficultés aussi à ce niveau-là, c'est que si tout notre public qu'on avait dans les battles, parce qu'il y a du monde, il viendrait aussi au spectacle, ça aussi, ça mettrait aussi, ce serait un poids différent. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait qu'on doit s'ouvrir sur plein de choses, sur plein de manières de faire et level up sur plein de choses. Mais déjà, nous, ce qu'on a, on ne vient pas le voir.
Exactement.
Donc, je trouve aussi, il y a aussi ce truc-là de cet entre-deux où je trouve qu'aussi, on doit se responsabiliser nous aussi et miser sur nous.
Ouais, parce que le truc qu'il y a, c'est que c'est pour ça que je te dis ça, c'est que je trouve que c'est avant, vu que j'avais fait de la créa, et quand j'étais en théâtre, moi, en tant qu'interprète, j'avais du mal avec ce que la personne me proposait parce qu'elle me demandait de plus être moi et d'enlever de fur et à mesure mon identité pour m'aligner avec ce qu'il voulait et le propos qu'il voulait défendre. Et souvent, je trouvais que quand après je voyais les autres spectacles, tous les spectacles se ressemblaient et moi, je ne me retrouvais pas. Et je trouvais que les spectacles n'étaient pas faits pour moi, ils étaient faits pour le théâtre en général, pour les abonnés. Et après, la question que je m'étais dit, est-ce que c'est la faute des danseurs ou est-ce qu'ils sont obligés de s'adapter au public qui va les voir? Tu comprends ce que je veux dire?
Pour moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on s'adapte ou est-ce qu'on fait un entre-deux?
Et c'est pour ça que je dis, c'est qu'en fait, avec du recul, et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, c'est que moi, mon constat, c'est que je n'ai pas travaillé sur mon public, en fait. Je ne peux pas arriver et avoir mon public si je ne l'ai pas travaillé. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que si moi, on me met dans un théâtre et c'est blindé, mais les gens, ils ne sont pas là pour moi, ils sont là pour le théâtre. Forcément, il faut que je leur donne ce qu'ils attendent. Si je leur donne, moi, ce que je dois donner à mon public, mais je n'ai pas cherché mon public et je n'ai pas fait le travail de « je danse dans un truc, je fais ma communication, je vais sur Instagram, je poste, moi, je n'ai pas 800 000, désolé, Sista, mais… »
Mais c'est déjà très bien ce que tu…
Non, mais je sais, t'inquiète. Non, mais je veux dire que je poste et qu'il y a deux personnes qui viennent, c'est ça la réalité. C'est la réalité, c'est que je ne me suis pas confronté à ça. Et quand je pose aux danseurs, je dis, au lieu de passer par l'institution, confronte-toi à ça, peut-être. Et deux personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 6, et c'est là qu'on va essayer d'évoluer. Et je pense qu'il y a un truc de redescendre et d'humilité de nous, de nous dire que ce n'est pas parce que quand je danse en battle, il y a du monde, si je fais un spectacle, peut-être qu'il n'y aura que 5 personnes, en fait. Comme là, aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, on fait la conférence. En vrai, on aurait fait un battle, il y aurait 10 fois plus de personnes. Et c'est la réalité, parce que les gens du hip-hop ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
Allez.
Après, c'est l'artistique, c'est ça.
Mais c'est la réalité, c'est qu'on veut les amener, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas voir les créas. C'est pas utile pour eux d'aller en créa parce qu'ils ne sont pas en avant, et ils ne sont pas dans le mouvement.
Ah oui, non, moi, pour moi, il y a aussi un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, de ma position, quand j'étais plus jeune, quand je vois une créa hip-hop, je n'en ai pas vu énormément, mais ce n'est pas aussi ce que je voyais dehors ou ce que je pratiquais moi.
Ouais.
Ça veut dire que aussi ce truc-là, il y en a eu et il y en a encore. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais juste que ce n'est pas forcément les pièces qui sont mises en avant. C'est-à-dire que de ta position, toi, jeune danseur, peu importe où qui aime le hip-hop, tu vas voir des pièces, ce n'est pas ça que tu vois. On te vend un spectacle hip-hop avec… Tu regardes un clip, c'est plus hip-hop, tu vois.
Ouais, non, non.
Tu vois. Donc forcément, tu te dis qu'ici, ce n'est pas ma place, donc tu ne reviens pas. Et donc après, quand toi, tu danses et tu as l'opportunité de faire un spectacle, tu dis non, ce n'est pas pour moi.
Exactement.
Donc pour moi, aussi un cercle vicieux briser.
Exactement.
Il faut briser un truc parce que…
Alors attends, et si ton cercle vicieux, en fait, c'était l'inverse, c'est que c'est un cercle vertueux qui serait qu'au départ, c'est une culture populaire. On est d'accord, ce n'est pas méchant de dire populaire, ok?
Non, on ne prend pas mal, t'inquiète pas.
Qui intéresse comme toutes les cultures populaires qui, au bout d'un moment… prend de plus en plus de place dans la société et se met à intéresser des publics qui sont intellectuels, qui se disent « Oh, c'est de la culture, il faut que j'aille voir cette culture » avec un côté un peu peut-être anthropologue, j'en sais rien, mais qui font qu'à un moment, eux ouvrent leur cerveau au fait que « Ah ouais, c'est de l'art » et que dans le même temps, les gens qui l'ont aimé parce que c'était une culture populaire peuvent aussi se dire « Ah oui, il y a d'autres arts qui existent aussi et on peut trouver un compromis. Enfin, j'aime pas le mot compromis parce que ça veut dire aussi refuser, laisser tomber des choses qui nous sont importantes. Mais ouais, d'assumer sa singularité, de dire ok, je peux plaire à, pas à tout le monde, personne ne plaît à tout le monde, mais à différentes catégories de spectateurs. Et comme Cassie au début disait, ces followers, ce n'est pas tous des gens qui ont exactement la même,
c'est tout
le même profil. Mais ça ne t'empêche pas, toi, dans ton art, d'aller t'autoriser à casser certains codes pour aller chercher d'autres publics et en même temps faire des références pour ceux qui les ont, mais en même temps pas s'appuyer intégralement sur ces références et du coup laisser tomber tous les gens qui n'ont pas les références et qui se disent ok, je suis à côté.
Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça.
Trouver
pour moi, c'est pour ça, quoi. C'est comme ça que quand je parle d'éducation, pour moi c'est ça. C'est savoir pédagogiquement comment on emmène les gens vers nous et comment nous on va vers eux. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, que nous, on ait l'opportunité de faire une pièce, parce que c'est notre souhait, mais aussi des gens qui nous suivent derrière, qui ne sont pas forcément de notre milieu, mais qui se sont dit, comme tu as dit, qui se sont dit, ah, mais ça, en fait, c'est lourd. Donc, vas-y, on vous donne les clés. Pour moi, c'est ça, mais il faut garder, pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette opportunité et qui ont mis de côté leurs références.
Oui, c'est
totalement.
Ça,
pour moi, en fait, il faut garder ces références. D'accord. Et il y en a qui l'ont fait, comme il parlait. Il y en a qui l'ont déjà fait avant nous, et depuis longtemps. Mais il n'y en a pas énormément, pour moi. Et pour moi, il faut que... Il faut garder ce socle-là qui fait qui on est, et qu'on fait que les gens ils peuvent s'identifier aussi. Que les gens de notre culture, même, ils peuvent s'identifier. Et avoir aussi une ouverture pour que les gens qui ne connaissent pas se disent « Ah, c'est frais !» Pour moi, c'est à ces deux trucs-là. Yeah. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que, comme disait Jimmy, c'est pour ça qu'on va dans cette démarche de faire le spectacle. Et qu'on dit, vas-y, on y va, et on a notre place.
Exactement, ça c'est important aussi, parce que le truc de légitimité, il est important aussi de le dire aujourd'hui, c'est que tout le monde est capable de faire un spectacle, en fait, et un bon spectacle. Ce n'est pas une histoire de t'as gagné des battles, ce n'est pas une histoire de tu es capable de faire un bon spectacle. Moi, j'ai vu des gens dans le stand-up nuls, claqués, et au bout d'un an, ils font des bons spectacles. Et j'ai vu des gens incroyables, ils n'avaient même pas fait un spectacle. Et je pense que c'est pareil même pour toi par rapport au street show. Ah. C'est que des fois, ce n'est pas les meilleurs b-boys, comme tu l'as dit, qui amènent le plus de monde ou qu'on rémunère par rapport à leur qualité.
Ah mais complètement, complètement, complètement. Franchement, c'est trop intéressant ce que vous dites. Moi, ce qui ressort dans mon raisonnement, c'est… Parce que toi, tu as parlé du fait que… Est-ce que c'est si bien que ça de se laisser guider par les institutions et de dépendre d'eux en faisant des spectacles dans des théâtres subventionnés? Vous avez parlé plutôt de la partie comment faire pour que les gens nous retiennent et qu'on puisse se développer par nous-mêmes. Et moi, ça revient à la question de l'indépendance, finalement. Comment faire pour pouvoir se développer en étant indépendant? Moi, personnellement, ça me parle parce que moi, j'ai zéro sub, j'ai jamais touché de subvention ou quoi que ce soit. Mes deux premières années de mon entreprise, je les ai financées grâce au street show à 100%. Et avec cet argent-là, j'ai commencé à utiliser des outils marketing pour aller démarcher les entreprises. Et du coup, booker des spectacles que je vends 10 fois plus cher à des entreprises, à des grands groupes qui, eux, demandent du hip-hop, pour le coup.
Mmh. Et l'image qui s'en fout.
L'image qui s'en fout, pas forcément, parce que...
Les décideurs dans les grandes entreprises n'ont pas forcément la même image du hip-hop que d'autres personnes peuvent avoir. Enfin,
Oui, ils ont leurs a priori, c'est sûr, mais au final, ce qu'ils achètent, ça reste du hip-hop. En tout cas, nous, on s'en assure. Après, bien entendu, par exemple, quand tu fais un spectacle de rue, tu mets d'autres ingrédients que quand tu fais un spectacle sur scène. Donc voilà, par exemple, nous, quand on nous demande une formule 5 minutes avec de la performance, ça va être plutôt chorégraphié, ça va être plutôt format Battle of the Year. Mm-hmm. Alors que si on doit faire un street show et que le but du street show, c'est de remplir son chapeau, on va mettre d'autres ingrédients. Mm-hmm. Donc on va insister sur la communication, sur l'émotion, on va mettre des parties d'humour et on va mettre de la performance. Qui est tous les ingrédients. Après, je pense que c'est chacun en fonction de son profil qui va aller chercher son public, mais au final, on va tous utiliser les mêmes outils. Ouais. Les réseaux sociaux, Internet, ça peut être aussi la rue, Festival d'Avignon. Moi, je l'ai fait plusieurs années, le Festival d'Avignon, mais qu'en off.
Donc aussi, hein. En off aussi.
En off, mais dans les théâtres.
Dans les théâtres.
Pour promotionner votre spectacle au théâtre. Nous, c'était vraiment que dans la rue. Et nous, on travaille aussi avec des marques qui veulent se promotionner dans la rue. Donc en fait, on couvre des opérations street marketing. Et moi, mon travail, c'est de les convaincre que la danse et le hip-hop, c'est l'un des outils qui a le plus gros potentiel pour attirer l'œil et du coup faire passer le bon message. Donc voilà.
Fort. Et toi, Cassie, par rapport à... Est-ce que quand tu fais tes vidéos aujourd'hui, maintenant que tu as une expertise, et que c'est aujourd'hui entre nous, tu es la boss des réseaux sociaux, je sais que tu allais faire cette tête. Je savais quand j'allais dire ça, tu allais faire cette tête. Mais est-ce que toi, quand tu fais une vidéo, tu réfléchis ou c'est spontané encore? C'est-à-dire que, en vrai, est-ce qu'il y a des codes que tu utilises ou est-ce qu'aujourd'hui tu fais je kiffe ce son, j'y vais, et puis voilà.
Bah déjà, j'ai vraiment entendu tout ce que vous avez dit et je trouve ça hyper intéressant dans le sens où, moi, à la base, je pense qu'il faut déjà faire un choix. Déjà, il faut se positionner. Mmh. Moi, quand j'ai fait les battles, quand j'ai commencé à faire les battles, c'était en mode freestyle, stress, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec les battles. Donc, en fait, je me suis simplement positionnée, c'est-à-dire j'avais juste envie à un moment donné, les danseurs, je pense qu'on a ce côté, on est beaucoup égoïste aussi. On a vraiment ce côté où on est très centré sur nous. Et ça, c'est normal. Je pense que tous les artistes sont comme ça, que tu sois chanteur, enfin ouais, tout ce que tu veux. Mais je pense aussi, c'est là où c'est dur. C'est-à-dire que j'ai su me dire, ok, je dois être super bon techniquement, être bonne danseuse, mais je dois aussi lâcher prise, ok? C'est-à-dire, quand je suis dans une salle de danse, bah, je me bute, je danse, je m'entraîne, tout ce que tu veux. Mais par contre, quand j'ai envie de faire des vidéos ou quand j'ai envie de danser, bah, en fait, je me laisse le droit de kiffer, tout simplement. Quand je dis kiffer, c'est quoi? Ça va être dans les choix de la musique. Ça veut dire, quand je vais m'entraîner, je ne vais pas écouter les mêmes sons. Quand je dis les mêmes sons, c'est-à-dire quand je m'entraîne, je vais plus être axée sur des sons assez poussés, du old school, sur des sons que monsieur et madame tout le monde ne va pas forcément connaître. Mais quand je vais commencer à me faire plaisir, là, j'écoute des sons qui me font plaisir, tout simplement, des sons actuels, entre guillemets, commerciales, comme on dit. Et ça aussi, je pense que ça joue. C'est-à-dire que quand je décide de lâcher prise et de créer du contenu sur mes réseaux sociaux, moi, je prends ça comme ça. C'est-à-dire, sur mes réseaux sociaux, je lâche prise. Ça veut dire, le choix de la musique, j'écoute les sons que tout le monde peut écouter aujourd'hui. Donc forcément, quand tu vois mes vidéos, déjà, la première chose que tu entends, c'est la musique. Tu dis, ah ouais, j'aime bien ce son-là. Automatiquement, bah, ça te donne envie de regarder cette vidéo-là. Et quand je me mets à danser pour faire mes vidéos, je ne me dis pas, je dois prouver. Je ne suis plus dans ce truc où il faut que j'envoie, ou il faut que ça tu vois, enfin, ce truc où on a, autant que danseur, de toujours montrer qui je suis. Enfin, voilà. Je suis moins dans ça. Je danse simplement, j'écoute la musique, je reste authentique, et ça sort comme ça sort, en fait. Et c'est aussi important pour moi que quand mon public me voit danser, qu'ils comprennent en fait, qu'ils comprennent et aussi derrière qu'ils se disent « Ah, c'est simple, c'est accessible, je peux aussi le faire ». En fait, je me mets toujours à la place aussi des gens. Par contre, je ne fais jamais rien en fonction des gens, ça c'est clair. Mmh. Je ne me dis pas, je poste, ah oui, là les gens ils n'aiment pas donc j'enlève. Non, je fais parce que si je le poste, c'est parce que je veux le poster et parce que j'aime ce que j'ai fait. Donc, je poste et j'attends pas. En fait, j'ai pas de retour derrière, tout simplement.
Tu lâches prise comme tu
dis. Je lâche prise. Donc, je pense que déjà, c'est un choix. Il faut se positionner. Les choix des musiques. Lâcher prise, je pense. Et rester et être moins, comment dire, je dirais pas être moins aigri ou je pense qu'il faut être moins... Il faut se tolérer, enfin, faut être moins...
Ouais, faut être moins dur avec soi-même, en fait.
Ouais, moins dur avec soi-même, je pense.
Ouais, parce
ouais,
que...
C'est surtout ça.
Quoi qu'on en dise, on met tellement notre cœur et notre passion, elle nous prend tellement que des fois, le poids du résultat ou le poids du regard de l'autre, il est tellement violent qu'il nous paralyse, limite. Et il y a beaucoup, beaucoup de danseurs qui sont dans ce cas-là. Et c'est bien que tu le dises parce que tu vois, le fait que tu partages, que même toi, tu as eu la pression des autres et tout, quand tu as commencé à être connu et tout. Et que parce que des fois, les gens, ils se font une image, parce que l'image qu'on voit d'abord, c'est les cas et les trucs que tu fais avec les marques. Mais le fait que tu aies cette fragilité-là, je pense que ça fait partie de ta danse et de ton lâcher-prise. C'est pour ça que les gens, ils s'abonnent et qu'ils continuent à liker. Tu vois?
Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est aussi que tout artiste, il y a un moment... peut prendre de manière personnelle un jugement d'un public, alors qu'en fait, ce que le public juge, c'est le travail qu'il voit.
C'est le travail,
c'est pas la personne. et que les réseaux sociaux, ça crée cette espèce d'ambivalence où tu me regardes moi ou tu regardes ce que je suis en train de proposer comme travail. Donc il faut accepter ça aussi, il faut accepter de lâcher prise, comme tu dis, et puis quitte à se mettre un peu en danger en disant « Ok, j'ai donné ma vie perso un peu, bah, c'est le deal, quoi. »
Exactement, et c'est un moment, en fait, ça ne définit pas toi entièrement. Cette conférence a été importante. Merci à tous les intervenants, vraiment, à tous, à vous, public, d'être venus, parce qu'en vrai,
la place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talks. Par la place.